Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Matthieu au chapitre 5, et nous lirons trois versets du premier au troisième verset qui nous parle des béatitudes, de ces huit choses importantes que Christ a mentionnées dès le début de son ministère, choses sur lesquelles combien il est bon en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions non seulement lire mais comprendre l'idée et puis les appliquer. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le dimanche passé, nous avons mentionné le sujet sans l'aborder, peut-être les cinq dernières minutes. Et nous avons peut-être essayé de voir trois choses. La première, les contextes. Nous avons parlé d'abord du temps choisi par Christ pour parler de ces choses. Nous avons aussi parlé du sens des responsabilités qui animaient Christ. Dieu lui faisait grâce, comme il est fait à plusieurs hommes et femmes aujourd'hui, d'avoir une capacité d'attraction, d'attirer des hommes et des femmes, des foules. Et nous avons montré que lui, il s'en servait pas pour sa promotion. Il n'utilisait pas cela pour se rendre important. Mais il voyait derrière ces hommes et ces femmes qui venaient en grand nombre une grande responsabilité. Et il les enseignait. Il leur apportait des enseignements méthodiques, systématiques. Et il les faisait avec un but. Mais nous avons aussi essayé de montrer, touchant un peu les béatitudes, et spécialement cette première, pourquoi Christ en avait parlé, à quel genre d'auditoire Christ a parlé, quels étaient les besoins de cet auditoire. Nous avons dit que Jésus avait conscience que cet auditoire avait un grand besoin, besoin du bonheur, mais pas besoin d'un bonheur naturel, pas besoin d'un bonheur cosmétique, mais un bonheur surnaturel, un bonheur profond. Et nous avons mentionné aussi que chaque fois que les mots bonheur revenaient dans la parole de Dieu, ça a un autre sens que vous et moi nous pouvons penser. Et déjà, au travers des 10 ou 11 premiers versets, cette phrase « heureux » qui cache le bonheur était mentionnée 9 fois. 9 fois. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, et il y va encore. Mais nous avons dit aussi qu'il ne parlait pas d'un bonheur passif, d'un bonheur qui nous tombait dessus, d'un bonheur que nous subissons sans faire quelque chose. Chaque fois, c'est un bonheur conditionné. Il faut être ou il faut faire pour avoir ce bonheur. Et nous avons montré aussi qu'il présentait ce bonheur comme non seulement ayant une base et une cause profonde, mais nous avons aussi montré que le bonheur qu'il mentionnait avait sa source dans tout autre cliché que les clichés habituels. Les clichés habituels, bonheur est attaché à un compte en banque, bonheur est attaché à un charroi automobile, bonheur est attaché, je ne sais, à quelle autre chose que vous pouvez mentionner. Mais nous avons aussi dit vers la fin que chaque fois qu'il mentionnait non seulement le bonheur, mais il montrait aussi la condition, mais il montre aussi finalement la conséquence. Heureux le pauvre en esprit, mais il ajoute, car le royaume des cieux est à eux. Et ce matin, nous allons voir et parler de cette première béatitude, de cet élément qui contient le bonheur. Et peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais mentionner un certain nombre de choses qui nous permettent de nous mettre d'accord. La première, c'est que cette béatitude n'est pas placée en première position au hasard. Il aurait pu commencer par « heureux les humbles »,« heureux les affligés ». Mais bizarrement, il commence par « heureux les pauvres en esprit ». Il place la pauvreté en esprit tout au début. Et nous verrons tout à l'heure les pourquoi. Parce qu'il sait que la pauvreté en esprit, c'est la condition pour le salut. Ne peut être sauvé que celui qui a conscience de manquer de quelque chose. Celui qui est en déficit de quelque chose. Deuxième des choses que je me redis, et je pense que c'est important, je me réessaye de rester même quelques minutes là-dessus, c'est que cette béatitude a été l'une des béatitudes la moins comprise, la plus mal interprétée, longtemps, et par les lecteurs de la parole de Dieu, mais malheureusement, même par les prédicateurs. Certains ont prétendu que Christ faisait l'éloge de la pauvreté matérielle. Certains se sont même arrêtés heureux, le pauvre, point barre. Et Sengo Nabatona Babola. Et ils ont presque vanté. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut s'habiller en haillons. Il faut être un mendiant. Non, Christ n'a pas voulu faire l'éloge de la pauvreté. Y a-t-il quelque chose de beau dans la pauvreté? Les gens n'entreront jamais au ciel sur base de ça. Ils diront, allez, qui gagnait seulement 10 francs par mois, entrez. Toi, tu gagnais combien? 1000? Allez, va-t'en. Qui ne mange pas à sa faim, entre jamais. Le salut n'aura pas comme base nos revenus ou ce que nous avons sur le plan matériel. Le fait d'être démuni, de soit avoir rien ou peu ou à peine ne nous apporte jamais le salut. Certains ont voulu, en citant Luc chapitre 6 verset 20, où Luc cite la même béatitude, mais il n'ajoute pas les termes « pauvre en esprit ». Luc s'arrête simplement en disant « heureux ». Le pauvre. Et certains ont associé cela en prenant Matthieu chapitre 19 au verset 23. Quand Christ a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais remarquez que Christ n'a pas dit c'est impossible. Il a dit difficile. À cause de certaines choses qui s'attachent à la richesse. De telle sorte que plus tard, Paul écrivant à Timothée, essaiera de remettre les pendules à l'heure en rapport avec la richesse. Il dira, recommande, 1 Timothée chapitre 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas placer leur espérance dans des richesses incertaines. Il montre tout ce qu'il peut y avoir comme piège attaché à la richesse. Mais je me redis, autant la richesse a des pièges, parce que quand Israël voulait entrer dans la terre promise, Dieu leur a dit, quand vous mangerez, vous rassasirez, vous aurez telle chose, gardez-vous d'oublier l'Éternel. Parce que l'aisance matérielle a tendance à éloigner les gens de Dieu. Mais j'aimerais insister, autant la richesse a des pièges, autant la pauvreté aussi en a. Les sages diront dans Proverbes chapitre 30, verset 8, il dit, ne me donnez ni richesse exagérée, ni pauvreté, mais chaque fois il montre les pièges qu'il y a dans l'une ou l'autre condition. De peur que dans la richesse, je ne dise qui est l'Éternel. Mais il ajoute aussi, de peur que dans la pauvreté, je ne puisse voler. La pauvreté a amené la prostitution. Je suis allé dans certains coins où on ne trouve plus, jusqu'à l'âge des 18 ans, une jeune fille vierge, une jeune fille sans enfant. Les filles mères, il y en a 13, 14, 15 ans à cause de la pauvreté. Je suis allé dans un coin, j'ai vu des choses, j'ai dit, waouh, la pauvreté peut amener jusqu'à ce point. Des jeunes filles prêtes à vendre leur corps pour 2000 francs. Permettez-moi de parler ainsi. 2000 francs la passe. Tu en veux 6, tu en as pour 12 000. À cause de la pauvreté. Non, la pauvreté ne sera jamais la condition pour le salut. Certains sont allés plus loin en prenant Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Dans la parabole racontée par le maître, où il parle du pauvre Lazare et du riche. Mais j'aimerais vous dire, le pauvre Lazare est entré dans les seins d'Abraham, non pas parce qu'il était pauvre. Et le riche n'a pas été perdu à cause de sa condition matérielle, loin de là. Mais plus à cause de leur relation avec Dieu et du style de vie que cela a entraîné. Heureux, non pas les pauvres tout court, mais heureux, les pauvres en esprit. Et quand il dit les pauvres en esprit, une troisième chose sur laquelle il est important que nous puissions nous mettre d'accord, s'ils ne vantent pas la pauvreté physique, Cette béatitude n'encourage pas non plus à la naïveté. Pauvre en esprit, je crois en tout. Je suis perméable à tout, j'accepte tout. N'encourage pas à l'analphabétisme, au mépris de la connaissance et du savoir. Car Satan a compris que par pauvreté en esprit, quelqu'un qui ne recherchait pas la connaissance. Dans certains siècles reculés, certains n'ont même pas voulu étudier. Pas soif de la connaissance en disant, il a dit, soyons pauvres en esprit. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. La grande question doit être alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Et surtout, qu'est-ce qu'il voulait dire par pauvre en esprit? Certaines versions dynamiques nous donnent déjà des éléments de réponse. La version française courant dit, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Un élément déjà. Ceux qui se savent pauvres. Mais cette pauvreté est encore spirituelle. Ceux qui se savent pauvres. La version des semeurs va plus loin. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui savent que spirituellement, ils n'ont pas assez ou ils n'ont pas suffisamment. La version Tob, traduction écuménique de la Bible, dit heureux les pauvres, mais les pauvres des cœurs. Heureux le pauvre en esprit, dont il est question ici, si cela signifie plusieurs choses, j'aimerais mentionner ce que je crois en étudiant la parole de Dieu, ce que cela veut dire. Premièrement, être pauvre en esprit, c'est avoir un regard sincère, un regard juste, un regard vrai et un regard sans complaisance tourné vers soi-même. Heureux ceux qui se connaissent réellement. Heureux ceux qui ont un regard sincère, juste. Quand on a ce regard sincère, juste, vrai, et sans complaisance tourné vers soi-même, ce regard nous amène à prendre conscience de ce que nous n'avons pas, ou de ce que nous n'avons pas encore, ou même de ce que nous ne pouvons pas avoir. Ce regard, c'est pas un regard imposé de l'extérieur. C'est un regard que l'on s'impose soi-même. Comment tu te regardes? Comment je me regarde? J'en ai parlé ici, mais j'aimerais encore en reparler. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, je ne me lasse pas de vous dire la même chose. J'ai dit ici il y a quelques mois, quelques années, que chaque homme a plusieurs identités. Il y a premièrement les moi officiels que nous présentons, toi et moi. Les moi officiels, il est souvent sophistiqué, travaillé, font un effort. Dans les moi officiels, la plupart d'entre nous nous paraissons plus que nous sommes. C'est pourquoi j'aimerais me poser, te poser, nous poser la question. Suis-je celui que je parais? Es-tu celui que tu parais? Mais deuxièmement, il y a les moi privés. Les moi privés seuls, une poignée de personnes qui partagent avec nous l'intimité de manière assez constante y ont accès. Viviane me connaît bien plus que vous tous. Veut me prendre pour un ange, mais elle, elle a les détails de mes faibles qualités, mais aussi de mes grands défauts surtout. Elle peut vous les citer, et si elle se met à citer, il faudra que je mette la main, je dis, Viviane, bomba boussousou. Garde certains. Mais puis il y a les moi réels. Et chez certains, et les moi officiels, ainsi que les moi privés, sont très éloignés du moi réel, de ce que l'on est réellement. Et là, je dis, il arrive même que ceux qui partagent avec nous les privés ne nous connaissent pas réellement. Une femme peut vivre avec un homme addicted, accroché à la pornographie sans savoir. Même un homme de Dieu, il est fait au bureau, il est fait à tel endroit, mais à la maison, il paraît un homme sérieux, saint. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et les pauvres en esprit, ils se connaissent. Ils n'ont pas besoin que l'extérieur les juge. Ils se jugent eux-mêmes. Ce regard tourné vers soi-même n'amène qu'à l'humilité. Un mot sur lequel nous allons revenir souvent quand nous parlerons des béatitudes. Et quand je parle de l'humilité, je n'aimerais pas prendre cette pensée que j'aime pas beaucoup, où l'on veut mettre tout ce qui est négatif chez soi. Non, l'humilité, ce n'est pas les complexes d'infériorité. L'humilité, ce n'est pas non plus prendre tout en noir. L'humilité, c'est avoir une juste opinion de soi-même. vrai. Parce qu'il arrive des fois que les gens nous voient plus grands que nous sommes. Quelquefois, ils peuvent nous voir plus petits que nous sommes, mais nous, nous savons qui nous sommes réellement. Et la vraie humilité, quand les gens nous élèvent trop, on dit non, non, je ne suis pas tellement ça. Voilà ce que j'y suis. Et les pauvres en esprit, ils ont cette qualité. Humilité, une qualité qui se fait de plus en plus rare, et même très rare dans notre monde. Les pauvres en esprit, ils ont une opinion juste et équilibrée les concernant. Où sont les gens sincères avec eux-mêmes? Où sont les gens qui n'ont pas besoin d'abord et surtout de l'extérieur pour mettre en jugement les concernant? Dans Corinthiens chapitre 11 au verset 31, l'apôtre Paul déclare, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Je me souviens un jour, j'étais à un endroit et un jeune homme était en train de me présenter d'une certaine manière. Et au fond de moi, je disais, Seigneur, s'il pouvait savoir. Mais puis j'ajoutais, Seigneur, aide-moi à devenir celui qu'il croit que je suis. Parce que je savais que je ne l'étais pas. Dans Luc chapitre 18, versets 10 à 4, Jésus nous parle de la parabole du publicain et du pharisien. Et là, on voit la pauvreté en esprit. On voit Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Écoutez ce que... On peut même remonter déjà au verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Waouh! Il dit encore cette parabole. Mais pourquoi? En vue de certaines personnes se persuadant justes et ne faisant aucun cas des autres. Il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi, parlant en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères et surtout pas comme ces publicains. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Mais j'aime les versets 13 et 14. Les publicains s'étaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus dit au verset 14, je vous l'ai dit, « Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » J'en ai parlé l'autre fois, « Seigneur, fais disparaître l'arrogance dans ton église. » Et surtout dans les sacerdoces. J'ai entendu parler d'un prédicateur qui voulait se présenter comme s'il était Dieu adjoint. Il prend le micro pour prêcher, il place au niveau du nez, il dit, ça sent le péché ici. Ah! Et vous regarderez dans la vie de cet homme aussi, il y a plein de choses. Combien de fois des hommes qui ont condamné certaines choses avec véhémence sont tombés dans les mêmes choses. Et des fois pire. Ah, c'est pour cela que j'ai toujours été frappé. Chaque fois que j'ai entendu le pasteur Jacques-André Vernot prêcher, des fois il condamnait certaines choses, mais il ne s'empêchait pas de dire, Seigneur, aide-nous. Lui y compris. Que des gens qui n'aiment point, bateau Masumu, bateau Kobo, Brokendeli Felo. Oh, si Dieu ne te soutient pas, qui es-tu pour condamner les autres? Cet homme avait une juste opinion de lui-même. Non, sois apaisant envers moi. Mais l'autre s'est vanté, rempli de lui-même. J'aime aussi lorsque David, dans 2 Samuel chapitre 3, verset 39, malgré les victoires qu'il a obtenues, il est devenu roi d'une partie du pays. Mais il a conscience de ses lacunes. Il a conscience du long chemin qu'il a encore à parcourir. J'aime ça. Écoutez ce que David dit. Quoique j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Donnons-nous des gens qui se connaissent, qui n'ont pas forcément besoin que l'extérieur vienne leur dire des choses. J'ai aimé l'un des chanteurs qui est mort il y a quelques années. Il a chanté en un terme. Il dit, boulant tous les komi ming na bonzambe. Les gens se tapent trop la poitrine. Je suis encore faible. Si je te demandais, si je me demandais, si je nous demandais, en quelques minutes, parle-moi un peu de tes faiblesses, tu diras quoi? Certains prendront du temps. Et puis à la fin, ils diront, j'en trouve pas. Quelqu'un même me fixera rendez-vous pour le lendemain. Reviens demain, puis j'aurai de l'inspiration. Un but d'eux-mêmes. J'aime encore lorsqu'au travers de l'échec et des défaites, Dieu permet que son serviteur, qui après avoir lancé un grand défi, vous savez, il n'y a pas mieux que Dieu comme pédagogue pour nous amener à avoir une juste idée de nous-mêmes. Élie a obtenu une grande victoire sur le mont Carmel et il a cru qu'il était le top dans l'histoire d'Israël. Il a lancé un défi devant 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. Il a demandé que le feu puisse tomber, le feu est tombé. Mais il n'y a pas mieux que Dieu, quelquefois pour nous enseigner. Mon pasteur me disait quand on était jeunes dans les ministères, il dit Dieu laisse et laissera quelquefois les échecs sur le chemin de l'homme de Dieu pour purifier ses motivations. Je suis en train de faire une prière, il est possible que personne ne dira Amen, surtout parmi les jeunes dans les ministères, mais quand vous ne direz pas Amen, moi j'aimerais le dire. Seigneur, s'il y a un jeune tellement imbu de lui-même, orgueilleux, je le supplie qu'il échoue lamentablement dans les jours qui viennent. Je sais que toi, tu n'as pas dit Amen, mais tu vivras ça. L'échec est une bonne chose. Ça te fait comprendre qu'il n'y a que Dieu. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne feras rien. Où sont les gens qui montent sur la chair en venant simplement présenter Dieu en tremblant? L'arrogance a pris place. Tu vas me dire, prédicateur, est-il mal de l'avoir de l'assurance? Non. L'assurance est une bonne chose, c'est positif. Mais l'arrogance est une mauvaise chose. Dans l'assurance, tout est bien. On ne s'appuie pas sur soi, on s'appuie sur quelqu'un d'autre. Mais dans l'arrogance, il y a deux éléments. Il y a un premier élément, mépris des autres. Et dans l'arrogance, il y a aussi un défi. On se fait les centres pensant que les autres ne sont rien. Et Dieu, comme un pédagogue, a suscité Jézabel. Et Jézabel a dit, si demain à cette même heure, je ne fais pas de toi ce que tu as fait aux autres. Il a fait tuer 850 hommes, mais une femme l'a fait fuir. Et j'aime quand il fouille ce qu'il déclare. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui le lui dit, c'est lui-même qui déclare. Dans 1 Roi 19, au verset 4, l'abbé rapportant les paroles d'Élie dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'aime quand l'homme lui-même se rend compte et dit, je ne suis pas si meilleur que ça. Cela montre qu'à un moment, il croyait être le meilleur. Il dit, je ne suis pas meilleur. Seigneur, fais revenir ce sentiment qui de plus en plus est fait rare. La Bible à plusieurs endroits vante et montre les bienfaits attachés à ces regards vrais, sincères, justes et volontaires. Dans Isaïe chapitre 66, le verset 2, mais la partie B, le Seigneur dit, voici celui sur qui je porterai mes regards. Une autre version dit, voici celui que je regarderai favorablement. Il dit, les malheureux qui a l'esprit abattu. Isaïe 66, verset 2, mais la partie B. Voici celui sur qui je porterai mes regards, les malheureux qui a l'esprit abattu. La version d'Arbis dit ceci, je regarderai à l'affligé, à celui qui a l'esprit contrit, mais à l'affligé pour soi-même. À l'affligé pour des choses qu'il y a au-dedans de lui. Du reste, dimanche prochain, nous parlerons du bonheur attaché à l'affliction. Dans Ésaïe chapitre 57, au verset 17, le Seigneur présente d'un côté ce qu'il est. C'est-à-dire, il parle de sa grandeur. Il parle de sa toute-puissance. Mais de l'autre côté, il présente les genres des personnes qui l'intéressent. J'ai beaucoup aimé ces contrastes qu'il présente. Écoutez ce qu'il dit. Car ainsi parlent les très hauts, dont la demeure est éternelle. Les très hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il dit, je demeure dans le lieu élevé et dans la sainteté, mais j'aime. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Le Dieu élevé, le Dieu très haut, qui habite le lieu très élevé, il dit, il aime les gens contrée. Les gens qui ont une idée basse, pas des gens qui se lèvent. La version Tob dit ceci, celui qui se sent broyé et qui en son esprit se sent rabaissé afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. J'en parlais au deuxième culte dimanche passé. S'il y a une portion de temps où j'aime pas regarder nos chaînes de télévision à nous, c'est dimanche entre midi et 15 heures. C'est le règne de l'arrogance. J'ai jamais vu quelqu'un reconnaître quelqu'un d'autre. J'ai jamais vu quelqu'un dire du bien de l'autre et il passerait de Ngaï de la quoi farabata la kunyoso. Quelqu'un d'autre dira Ngaï, Jésus de Mingongo. Un autre j'ai entendu dire Ngaï, Nzambe yaba nuance. J'ai jamais entendu quelqu'un. Là même on cite, mais il s'amène à parcours, na yo mutube mutatangiso, c'est telle personne qui t'a enseigné dit té. Ngaï na tangisa qui est puis ayeko aider Ngaï. Je l'ai enseigné, je lui ai appris les béaba, et puis il m'a aidé tant soit peu. Seigneur, redonne-nous un peu d'humilité. Redonne-nous un peu d'humilité. Cette qualité, cette vertu, qui déjà se fait rare dans le monde, se fera de plus en plus rare, plus on va tendre vers les temps de la fin. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, la Bible nous dit que nous aurons des temps difficiles au jour dernier. Mais il nous est fait aussi mention, les pourquoi à cause de plusieurs qualités d'hommes qu'il y aura dans ces jours. Mais il nous est dit aussi, les hommes seront fanfarons. Fanfarons. Les fanfarons sont des gens qui se vantent des exploits peut-être vrais qu'ils ont eu à faire, mais la plupart des fois des exploits qu'ils n'ont pas eu à faire. Qui prétendent être ceux qui ne sont pas. Qui se vantent des exploits et des victoires, des fois réelles, mais souvent imaginaires. Que des gens qui sont prêts à tout pour être importants aux yeux de certaines personnes. J'ai vu des gens se promener avec une clé alors qu'ils n'ont même pas une voiture, même pas une batterie pour faire de l'effet. Pauvre en esprit. Mais pauvre en esprit signifie surtout la conscience réelle et non imposée de ses limites en termes de connaissances. Pauvre en esprit signifie, j'insiste, la conscience réelle et non imposée de ses limites en termes de connaissances. Et quand je parle de connaissances, je touche la connaissance en général, mais je touche surtout la connaissance spirituelle. La connaissance est générale. Et surtout spirituel, ont deux sources. La première source, c'est les temps, les vécus. Et par rapport à cela, la connaissance est un processus. Nous naissons handicapés des connaissances. Plus nous avançons en âge, plus nous acquérons des connaissances. Et le temps est un moyen qui nous apporte beaucoup de choses. Dans Job, au chapitre 22, verset 7, Élihu dit quelque chose qui l'atteste. C'est vrai, il dira un peu le contraire après, mais dès le départ, il pose comme un postulat. Je me disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre d'années enseigneront la sagesse. Ça arrive, et cela est vrai. Pour connaître, il faut vivre assez longtemps. Je me souviens déjà jeune dans la foi. J'écoutais plusieurs prédications du feu pasteur André Vernon. Mais je me souviens des prédications que j'ai suivies en 88, en 89. Je les ai resuivies en 2005, en 2006. J'avais une autre compréhension. Pourquoi? J'ai une meilleure compréhension. À l'époque, 27, 28, 29 ans, je comprenais pas les mondes. J'avais un petit vécu. Mais aujourd'hui, j'essaie de comprendre certaines choses. Le temps est une grande source de connaissances. C'est pourquoi, jeunes gens, filles et garçons, soyez humbles. Vous avez à vos côtés des sources de connaissances. On raconte l'histoire d'une jeune fille de 14 ans. Sa maman l'a vue grandir. Et puis sa maman a dit, non, il faudra peut-être qu'on parle des choses assez sérieuses. Elle voulait lui parler de la sexualité. Un beau matin, elle appelle sa petite fille vers 8 heures et dit, allez Jeanne, viens. J'aimerais que nous puissions parler de la sexualité. Quand ils se sont assis, la jeune fille a dit à sa mère, alors qu'est-ce que tu veux que je t'enseigne sur le sujet? Ah, parce que sur Internet, elle a tout appris. jeunes gens apprenaient à fermer la bouche, funga. Il y a des jeunes gens qui ont des démangeaisons. Tu n'as que 20 ans. Tu n'as que 25 ans. Le pasteur Mike Murdoch dit un jour, il était accompagné d'un jeune homme dans les ministères et ils ont eu la possibilité de rencontrer l'un des hommes que l'on présente comme étant un peu le Salomon de notre siècle. Les gens, des personnes que l'on rencontre pas souvent, il leur a accordé 30 minutes. Il dit, en 30 minutes, ce jeune homme, durant 25 minutes, a commencé à parler de ses exploits. Jésus, moi, je prêchais à tel endroit, j'ai organisé. Il disait, toi, arrête-toi. Ces genres de personnes, ils ne rencontrent pas souvent. Il faut les faire parler qu'ils vomissent. Avec ton âge, tu crois être un dépôt de connaissances. Même dans les domaines politiques, il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Sois humble. Va vers ces gens qui ont fait table ronde. Qui te diront, Keba na babel, je balaramabe. Balobarabouye, mais... Ils te parleront de 20 bits. Ils te diront combien on les a leurrés avant l'indépendance égale. Keba. 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 Jeunes gens, quand vous me voyez avoir cette érosion sur la tête, ça veut dire que j'ai vécu plusieurs années. Quelqu'un a dit, Tamboula na makolo mouna mayanzi. Marche à pied. C'est un texte de la parole de Dieu que j'aime beaucoup. J'aime bien quand les fils des prophètes se sont rendus compte que l'endroit où ils étaient était étroit. Ils avaient en face d'un vieux prophète, physiquement fatigué, écroulé. Et ils savaient que le travail qu'ils devaient faire exigeait simplement la force physique, les muscles. Mais avant qu'ils ne partent, et ça j'aime, l'un des jeunes gens est allé vers Élisée et dit « Consent à venir avec nous. » Consent à venir avec nous. J'essaie d'imaginer quand il faisait les déplacements à cause de la lenteur du vieux aux trois jambes. Il marchait presque comme des tortues. Ses amis devaient les regarder en les blâmant. Tu vois, à cause de toi, on marchait lentement. Tu as amené ce vieux. Je comprends que sûrement ils sont arrivés avec un grand retard. Et voulant racheter les temps, ils ont commencé à travailler rapidement. Et subitement, le fer s'est détaché du bois. Les règnes de la musculature, des biceps et des triceps à bourreau, ils se sont regardés, ils ont dit, il était emprunté. Et l'homme aux trois jambes s'est avancé et dit, c'est le règne de la sagesse maintenant. Écartez-vous, écartez-vous. Que des jeunes gens qui disent, Bissomou Pepia Sika, la nouvelle vague, les jeunes turcs, font enlever les vieux prophètes. Il a fait un système bizarre. Il a placé les bois. Et les fer a surnagé. Ah, je ne pensais pas parler de ça, mais ces deux choses me montent. Un jour, le feu pasteur Vernon m'appelle au bureau et dit, Roland, viens, un jeune homme veut me parler. J'entre au bureau. Il était assis là, moi de l'autre côté, ce jeune homme, il n'avait même pas 30 ans. Il parle avec l'insouciance, mais l'arrogance qui ne peut venir que de la jeunesse et du manque d'expérience. Pasteur, je viens de la part de Dieu. Dieu m'a dit de venir te dire que tu es fatigué spirituellement. Tu t'es pas rendu compte que ça fait 6 dimanches, tu ne fais que te répéter. Homme de Dieu, est-ce que tu pries encore? Quand les jeunes hommes parlaient comme ça, j'étais fâché à la place du pasteur. Je voulais dire, Nabetaye! Mais lui-même, il était calme. Et puis il a ajouté, on sait sentir que tu ne pries plus beaucoup. Ouf, les jeunes gens. Dieu m'a dit, Dieu ne te parle qu'à toi. Et j'attendais la réaction du vieux Vernon. Quand le jeune homme a fini, j'ai dit, c'est sûr, il va lui donner une bonne leçon. Il a dit, jeune homme, prie pour moi par rapport à tout ce que tu as dit. Et tant que les jeunes hommes réalisent, lui-même, il a déjà baissé la tête. Moi, j'avais difficile. J'allais dire, vieux, fungola miso. Corrigez-moi, nous. Et écoutez la prière du jeune homme. Seigneur, j'espère que ton serviteur a compris. La jeunesse. Je ne connais pas la suite, mais je peux imaginer quand il est sorti, il a dû parler à ses amis, dit na lobela ki viona. J'ai donné une bonne leçon à ces vieux. Quand il est parti, je regardais les pasteurs vers nous. Je dis, mais pasteur, comme il dit, dans lequel est-ce que tu voulais que je dise? Que je lui prouve que je prie? Que je lui fasse une démonstration? Il y a des jeunes gens qui vivent comme s'ils veulent inventer la roue. On est en 90. On était jeunes à la jeunesse de la borne. On pensait qu'à part nous, personne d'autre ne faisait la délivrance. Et que nous étions des docteurs S délivrance. Nous avions un aîné qui était devant nous. Et ce jour-là, depuis 15 heures, moi j'étais leur assistant. Et ils faisaient, moi je regardais. Ils étaient à 4, ils avaient commencé depuis 15 heures pour un cas. 17 heures, les gorges séchées, les voix. Et puis on a vu simplement Madame Vernon s'avancer avec sa canne. Et puis elle a demandé, j'ai failli même citer les noms du président. Vous avez dit, c'est, qu'est-ce qu'il y a? Léon répondait, non, il y a ses frères qui y a ses... Je vais venir. J'ai entendu comme elle a dit, Bissogoutozo Kourate, Yendaroyaro Koka. C'est-à-dire, nous, on n'arrive à rien faire. Et c'est elle qui va faire quelque chose. Cette dame est venue. Elle a fait une technique de la délivrance qui est devenue une jurisprudence toutes les années qui ont suivi. Elle s'est simplement avancée. Elle a demandé quelle est l'histoire du jeune homme. On a relaté. Elle a dit, ok, il s'appelle comment? On a donné les noms. Il a appelé par son nom X. Les esprits faisaient... Il dit, c'est pas à toi que je m'adresse au jeune homme. Tu peux me parler, X? Tu peux me parler, tu peux le faire au nom de Jésus? Oui, renonce à ceci. Oui. Il a renoncé. Renonce encore à cela. Oui. Renonce encore. Quand il a renoncé aux trois choses, il a dit, attendez maintenant, en 30 secondes, au nom de Jésus. Ah! Bon! Les amis qui étaient avec lui ont dit, mais au hasard, danger. Délivrance complète et totale. Elle ne s'est pas fait prier, elle a continué. On a commencé à dire, merci madame, merci, merci, merci. Et depuis ces jours, ça a toujours été la technique. Faisons comme. Oh Seigneur, donne-nous des jeunes gens qui sont assis à côté des sources de connaissances et qui peuvent aller puiser. Aller puiser. Mais pour le faire, il faut être pauvre en esprit. Avoir conscience que je ne connais pas suffisamment. À côté de moi, il y a des gens qui connaissent. Combien de fois de jeunes Samuel n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils méprisent Élie. Élie qui a les yeux troubles. Il a peut-être les yeux troubles, mais il a marché avec Dieu. Quand Dieu appelle Samuel, Samuel ne connaît pas. Il avait dit, Élie comprit que c'est l'Éternel qui a appelé l'enfant. J'aimerais te dire, tu as à côté de toi de quelqu'un qui a des connaissances que toi tu n'as pas. Et il lui dira, la prochaine fois qu'on va t'appeler, dis parle, ton serviteur écoute. Et quand il a répondu ainsi, c'était le grand départ pour la vie. Où sont les Élie qui écoutent les Samuel? Nous avons des Samuel trop imbus d'eux-mêmes. Et du même, leur orgueil c'est dû à l'Internet. Toutes les recherches qu'ils font sur Internet. Il a écouté tel prédicateur. Du reste, quand il avale, il s'est dit, Nako, boum, bango, pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. J'entends un jeune homme dire, ça contre ma jeune. Hein? Si c'est comme ça que tu prends ça, j'ai pitié de toi. Que des jeunes gens dans les ministères qui auraient dû aller vers les aînés, s'ouvrir, les écouter, profiter de leur vécu, mais qui ne le font pas parce qu'ils prétendent être des sources de connaissances uniques et rares. Comme je le disais, à peine ils ont lu un bouquin, à peine ils ont fait des découvertes, à peine ils ont entendu quelque chose, ils se donnent des titres et se croient subitement importants. Lorsqu'ils parlent, on sait sentir, comme je l'ai dit la fois dernière, qu'ils ne visent pas la transmission des connaissances ou l'édification, mais plutôt montrer combien ils connaissent. Même quand on ne les dit pas, ça se sent. quelqu'un qui veut communiquer simplement édifier, et quelqu'un qui veut se vendre, quelqu'un qui fait son auto-promotion. Mais la pauvreté dans l'esprit que Jésus enseigne, lorsqu'il est là, s'accompagne certes de l'humilité. Mais cette humilité se présente sous plusieurs formes. La première forme de la pauvreté dans l'esprit, c'est la conscience de ses limites. La conscience de ses limites. Même le grand apôtre Paul, l'une des rares personnes à avoir eu accès au mystère de Dieu, connaissait ses limites. Écoutez ce que 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 4 disent. Waouh, il parle de lui-même, il parle de son expérience, il parle de son vécu. Mais après cela, on voit que c'est quelqu'un qui était conscient, très conscient de ses limites. 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset au verset 4e. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Toi, tu n'es même pas encore arrivé à l'antichambre du premier ciel. Lui, il est arrivé jusqu'au troisième ciel. Il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Mais il ajoute au verset 3, et je sais que cet homme fut enlevé dans les paradis. Et il ajoute, et qu'il a entendu des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Écrivant même aux Éphésiens, il leur dira, en lisant ses écrits, « Vous vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Mais j'aime la même personne. Dans 1 Corinthiens 13, 9, il dira, « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Malgré toutes les connaissances qu'il avait, il présente ses limites. « Je connais, mais je connais en partie. » Une autre version dit, « Je connais très peu. » Si lui, déjà qui avait autant de révélations, dit qu'il connaît très peu, et toi qui as à peine, comme une tortue qui veut se faire passer pour l'éléphant. Il ira même plus loin, il dit, en ces jours-là, nous connaîtrons comme nous avons été connus, conscients de ses limites. J'aime ce que la version française courant dit, en effet, notre connaissance est incomplète, et notre annonce des messages divins, est limité. La version parole de vie dit ceci. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Je prêche l'évangile depuis plus de 25 ans, mais je n'ai pas la prétention de connaître la parole de Dieu. Le feu pasteur Vernon m'a appris comme prédicateur et surtout pasteur. Il dit, Roland, ne sois pas une réponse à tout. Combien de fois des gens ne viennent-ils pas me présenter un problème au bureau? Je ne peux m'empêcher de dire ça, je ne connais pas. Je ne deviens pas moins pasteur. Je ne suis pas dévalué. Ça, je ne sais pas. Je ne sais que faire. Je n'ai pas réponse à ceci. La pauvreté en esprit nous fait prendre conscience de nos limites. Dans Job chapitre 42, verset 3 ainsi que verset 6, les patriarches qui pensaient connaître. Job pensait tellement connaître, il voulait tout comprendre. Et puis Dieu s'est mis à lui poser des questions. Si nous parlons Job, chapitre 42, verset 3, ainsi que le verset 6. Du chapitre 39 jusqu'au chapitre 41, Dieu a posé à Job 66 questions. Où étais-tu quand j'ai fabriqué les crocodiles? Où étais-tu quand j'ai fait ces écailles? Où étais-tu quand j'ai donné la direction à la tempête? Où étais-tu quand j'ai dit aux eaux, vous irez de là jusque là, pas plus loin? Et j'aime, à la fin, Job dit, je mets ma bouche dans la poussière. Il ajoute, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donnons-nous des gens qui connaissent leurs limites. Donnons-nous des gens qui ne se vantent pas trop. Deuxième manière de montrer qu'on est un pauvre en esprit, c'est l'ouverture que l'on montre de plusieurs manières. L'ouverture que l'on montre de plusieurs manières. Que des gens qui sont fermés. Ils prétendent connaître tout. Dans Luc chapitre 2, verset 46, la Bible est parlant de Jésus, tout petit, il a à peine 12 ans. Il se présente au temple, écoutez ce qu'il dit, il faisait deux choses. Il est allé vers les autres et il posait des questions. La Bible dit, au bout de 3 jours, ses parents les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs. Et j'aime ce qui est dit, les écoutant et les questionnant. Il les écoute, ouvert. L'abbé dit, soyez prompt à écouter et lent à parler. les écoutant et les questionnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et ça encore, ça veut dire quoi? Pauvre en esprit, ouvert aux autres, la pauvreté en esprit. Nous voyons aussi cela dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Je lisais ça hier soir. Je disais, Seigneur, donne-moi un tel cœur. Donne-moi un tel cœur. Actes 8, verset 30 au verset 31. Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. L'abbé dit, Philippe accourut et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ah, j'aime le verset 31. Il répondit, comment les pourrais-je si personne ne me guide? Ça, c'est la pauvreté dans l'esprit. Comment les pourrais-je si personne d'autre ne m'oriente? Il veut dire, j'ai les textes, mais je ne connais pas les sens. Il faut quelqu'un d'autre pour venir m'expliquer. C'est pour cela que j'aime les disciples. Ils ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas pu. Et ils ont vu le maître faire. Dès que le maître s'est retrouvé seul, la Bible dit, ils sont allés vers lui. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Toi, tu as des choses que nous n'en avons pas. Nous voudrions qu'il y ait transmission des connaissances. Nous voudrions que des choses puissent te quitter et venir vers nous. Autre manière de montrer cette ouverture, c'est l'acceptation des remarques et des corrections. L'acceptation des remarques et des corrections. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24 au verset 26, nous présente un récit que j'aime beaucoup. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Actes 18, du verset 24 jusqu'au verset 26. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens, limité dans sa connaissance. Mais écoutez ce que le verset 26 dit. Il s'est mis à enseigner librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur. Il enseigna avec ferveur, avec éloquence. Les gens suivaient, waouh! Mais dans la masse, il y avait deux qui connaissaient. Le fait pasteur Vernon m'a dit, Roland, les micros ont tendance quelquefois à vous faire croire que vous êtes les plus intelligents au monde. Il me disait, Roland, c'est pas parce que tu te tiens là que tu es plus intelligent que ces gens qui sont assis. Parmi vous qui êtes assis, il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence, il y a même de la connaissance spirituelle qui me dépasse. C'est simplement la grâce de Dieu qui me qualifie à être ici. Alors des jeunes gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, quand ils se tiennent, ils ont l'impression que parce qu'ils tiennent les micros, ils connaissent tout. Tout le monde est ignorant et ils sont la source unique de la connaissance. Mais Priscille et Aquilas se suivaient. Et la Bible dit, ils lui enseignèrent plus exactement. Et j'aime ce que la Bible dit après ces temps, il s'est rendu très utile. Homme de Dieu, comment vous réagissez aux remarques? Il y a des gens qui sont imperméables aux remarques. Un homme de Dieu relate, il dit, un jour il était en train de parler à un jeune homme, et quand on lui parlait, ce jeune homme donnait des coups par terre. Il a parlé 5, 7, 10 minutes. Quand il a fini de parler, ce jeune homme lui a demandé, tu as fini? Il a dit oui. Il dit, j'aimerais être sincère avec toi. Quand tu parlais, ce n'est pas que j'écoutais. J'entendais mon tour pour répliquer. C'est-à-dire, je suis imperméable. Que des hommes, des femmes, des jeunes gens, fils et garçons, dans le ministère, qui voient derrière chaque personne qui leur fait des remarques, quelqu'un qui est contre eux. Asa contre ma succès n'engaille. Il est en train de me freiner, vous n'irez jamais loin. La Bible dit, la correction, c'est le chemin de la vie. Jeune dans le ministère, j'ai jamais oublié. Je vais apporter un merveilleux dimanche. Je me souviens un jour de 94, j'ai apporté un message. Les gens ont voulu me transporter sur un chipo. L'un est venu me dire, Roland, aujourd'hui ce n'est pas toi qui as parlé. C'était Dieu lui-même. Et vous savez, ça flatte l'ego. Et alors qu'on était en train de saluer les gens, j'étais à côté du feu, Jacques-André Vernon, il m'a dit, Dallo, est-ce que demain à 9h tu peux passer à la maison? J'ai dit, oui pasteur. Et le lendemain à 9h, j'étais chez lui, quand je me suis assis, il me dit, hier tu as chômé sur la chair. Chômage, Dallo! Et quand il parlait comme ça dans mon cœur, je disais, ah non, viens à contre un gars. Non, il est contre moi. Hein? Et les gens qui ont dit que c'est Dieu qui a parlé, c'est... Et il a commencé à disséquer le message. ça, tu n'aurais pas dû dire. Là, tu es resté trop longtemps pour rien. Là, tu as ouvert une parenthèse et tu es allé. Et du reste, tu t'es perdu dans ton message. Et quand il parlait comme ça, je me rendais compte qu'il avait vraiment raison. Où sont les gens qui sont ouverts aux remarques? Maman, Bilomo so bongarate parce que tu es trop fermé. Avec ton teint comme moi, tu mets du noir foncé parce que ce noir est bon. Ça côté, otikangaï. Tu as des problèmes. Ah, vous savez, quelquefois, le meilleur regard correcteur, c'est les regards d'autres personnes. Je vous ai relaté cette histoire ici. Un dimanche, j'ai fini de prêcher à l'église là-bas. Je descends. Et c'est pour ça que j'aime des fois nos ennemis. Des fois, nos ennemis nous rendent plus service que nos amis. Nos amis nous aiment tellement qu'ils font même de nos défauts des qualités. Mais nos ennemis ne nous aiment pas tellement qu'ils cherchent à la loupe. Moindre erreur. J'ai prêché ce dimanche, non, c'était en 2001. En 2003 plutôt, j'ai fini de prêcher. J'ai descendu, je savais qu'il faisait sciemment. J'allais monter vers ma vieille Mercedes rouge. J'entendais ce frère dire, il dit, « Gana église au pasteur Karamoko. » J'y vais, Jacques-André Vernon. « Bah, onyonso, bah, faux pasteur. » Et alors que je venais, j'étais à 3 mètres. Il dit, « N'est-ce pas, à l'élo. » Sur mon pessin à cassette, « N'a pas, boukha, boukhango. » Faux ma terre. Je me disais, je rentre ou je continue. Il dit, bon, il y a Sabino. Alors, il dit, eh bien, 52 fois. Nakatia Matéa, 52 fois. Je suis resté là, j'ai dit, ah. Je voulais monter dans les véhicules. Je suis rentré à la cabine technique. Je suis allé voir Alain Yang. J'ai dit, Alain, donne-moi la cassette VHS de la prédication de tout à l'heure. Il dit, je t'ai fait la copie. Il a fait la copie. J'arrive, Viviane me dit, tu veux manger? Je ne mange pas encore. Et puis, j'ai placé. J'ai commencé, eh bien, 1, eh bien, 2, eh bien, 18, eh bien, 52. Oh. Donc, lui, le message, ça lui disait rien. Et vous savez quoi, il m'a aidé. Parce que le dimanche d'après, quand je suis monté, quand Hébert voulait monter, j'ai dit, dosé. Et il y a eu un message sans Hébert. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que tu aimes la correction? Jeune avocat en stage, ton maître de stage t'appelle après une plaidoirie, il te ramasse, tu es gonflé au fond de toi. Et pourtant, il ne fait que t'aider. Jeune stagiaire en médecine, on crie sur toi, peut-être même en public. Ça fait certaines remarques pour que ça passe, des fois, il faut devant les gens. Pourquoi il m'a parlé comme ça? En plus, devant les filles. Et tu voulais que ça soit devant qui? Devant les statues? Pauvre en esprit. Mais j'aime encore un pauvre en esprit, c'est Nicodème. Jean chapitre 3 nous parle de Nicodème. Chaque fois que j'ai lu ce passage, je me suis posé la question. J'aurais été à la place de Nicodème, est-ce que j'aurais posé les actes qu'il a posés? Pauvre en esprit. Du premier verset, nous pouvons aller même jusqu'au verset 10. Il alla des nouilles. Pourquoi il reconnaît qu'il connaît des choses qu'il ne connaît pas. Et j'aime quand il s'approche, il dit, tu es un homme venu de Dieu. J'aimerais te poser, me poser la question, est-ce qu'on dit Maravat Moussous? Un docteur de la loi, qui va parler à Jésus, dit, ouf, que des gens qui ont difficile à reconnaître les autres, bref. Magamona, pasteur, kena, oteyanga, vena, oteyanga. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il va, peut-être des nuits, mais il va vers la source des connaissances. Il s'abaisse en allant vers lui. Il s'ouvre en posant des questions. Et il est ouvert à recevoir de nouvelles choses. Jésus-Christ l'humilie presque et dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Mais on ne voit pas des révoltes dans les chefs de Nicodème. En terminant ce message en ces jours, Dieu me dit de dire à quelqu'un, ton problème a un nom, l'orgueil, la suffisance. Tu es trop important à tes propres yeux. Tu as une trop haute opinion de toi-même. Tant que tu auras ces sentiments, tu passeras à côté. Et pourtant, il y a un bonheur, et même un bonheur profond et inégalable, à être conscient de sa pauvreté et à désirer d'être enrichi. Dans Jean chapitre 9, au verset 34, la Bible parle des docteurs de la loi trop importants à leurs yeux, incapables d'écouter quelqu'un d'autre, et surtout, quelqu'un qui n'est pas de leur rang. Alors que cet homme leur parle, écoutez comment ils lui disent, « Tu es né tout entier dans les péchés, et tu nous enseignes. Tu ne peux rien nous dire. Tu n'es que péché du pied, de la plante des pieds jusqu'à la tête, et tu veux nous enseigner. » Mais Jésus enseigne sur le bonheur qui a été conscient de son ignorance, de ses limites, de la peu de connaissances que l'on a. Il nous dit que ces sentiments-là nous ouvrent la porte des cieux. Malheur à ceux qui, comme l'église de Laodicée, n'ont pas conscience de leurs manques et de leurs lacunes. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, écoutez ce que la Bible dit. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. » Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Qui manque, mais qui ne sait pas qu'il manque. Seigneur, aide-moi à savoir que non seulement que je manque, mais je manque suffisamment. Comment avoir ces sentiments de pauvreté en esprit qui amènent à expérimenter le royaume des cieux? Une chose essentielle, avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais deuxième chose essentielle, prendre conscience que d'autres sentiments que celui-là nous ont envahis. Mon épouse et moi, on a passé 4 ans en Nairobi. On a écouté ces récits qui un jour m'a humilié. Quand vous allez au Kenya, vous trouverez une tribu, les Maasai. La plupart des coureurs, des distances, des longues distances, des courses de fond sont Maasai. Mon général, ce sont des gens qui n'aiment pas beaucoup les études. Soit ils gardent leur troupeau, ou alors quand ils viennent en ville, ils sont huissiers, ils sont sentinelles. Leur repas préféré, ils mélangent le sang des vaches ainsi que les laits. Mais comme je dis, comme ils n'ont pas, la plupart des fois, ils n'étudient pas. Quand ils viennent en ville, ils sont huissiers, ils sont sentinelles. Et on rencontre l'histoire de ces Maasai qui travaillaient comme huissiers dans ces bâtiments, cet immeuble de plus de 15 étages. Et il aidait un monsieur qui avait un bureau 8e. Et chaque fois que ce monsieur venait, il aidait, et les deux rentraient dans l'ascenseur et ils pouvaient. Mais ce jour-là, le monsieur arrive. J'ai oublié un petit détail. Ce Maasai avait un deuxième problème, c'est qu'il était bègue, il bégayait. Maasai, presque un handicap. Un deuxième handicap, il bégayait. Et quand son patron est arrivé, il a pris les sacs, il voulait prendre l'ascenseur, il y a eu coupure d'électricité, chose assez rare dans cette contrée-là. Donc, il ne pouvait plus prendre l'ascenseur, il devait prendre l'escalier. Et juste alors qu'il faisait le premier pas pour prendre l'escalier, le Maasai a voulu parler au monsieur. Funga kinyowe. Qu'est-ce qu'un Maasai a à dire à un Kikuyu? Et puis en plus, un Maasai qui bégaye. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ils arrivent au niveau du troisième, le Maasai va encore parler. Ah. Et puis finalement, ils arrivent au huitième. Le monsieur, juste devant la porte, se retourne vers les Maasai et dit, finalement, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Toujours en bégayant, il a dit, chef, je voulais te dire, j'avais vu comme si tu avais laissé la clé du bureau dans la voiture. Et il a vérifié, il avait laissé la clé du bureau. Il avait difficile à lui demander, descends, va chercher. Même quelqu'un de plus petit peut t'apporter des choses. Ton problème, mon problème, on est trop imbu de nous-mêmes. Heureux, le pauvre, en esprit. Baissons nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer ce double appel et puis l'homme qui va prier va le faire. J'aimerais même, alors que nous sommes là, nous puissions nous lever tous. Levons-nous s'il vous plaît. Et ces doubles appels, je ne demanderai pas que quelqu'un lève la main. Je prie simplement que là où tu es, tu te retrouves. Y a-t-il quelqu'un qui a lu de cette parole peut dire au plus profond de lui, je suis orgueilleux, imbu de moi-même. Le peu que je connais, je pense être tout. Je suis pas ouvert aux autres, ni aux remarques, ni aux apports extérieurs. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à lui de cette parole, Dieu m'a touché car je supporte pas que mon épouse me fasse des remarques. Je ne supporte pas que mon mari me fasse des remarques. Je ne supporte pas que des parents me fassent des remarques. Je ne supporte pas que des amis. Mais ce matin, à lui de la parole de Dieu, je me rends compte que je ne connais pas tout. Et qu'il y a des connaissances qui viennent des autres, mais il y a des connaissances qui viennent sous forme de corrections. Que la pauvreté en esprit soit mon partage. Que je sois de la race de Jésus-Christ qui pouvait aller au temple. Non seulement poser des questions, mais écouter. Que je sois de la race de Nicodème, qui peut reconnaître la valeur des autres. Tu es un docteur de Dieu. Qui peut même accepter des remarques. Tu es un docteur de Dieu d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Ah, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire? Un pauvre orgueilleux, voilà ce que je suis. Insuffisant, voilà ce que je suis. Un arrogant, voilà ce que je suis. Combien de couples seraient bien meilleurs s'il y avait moins de suffisance et d'arrogance? Ta femme n'a peut-être pas étudié, n'a pas fait les mêmes études, mais quelquefois quand tu lui parles, c'est avec dédain. Quand elle se trompe sur quelque chose, tu veux lui montrer qu'elle est un sous-homme. Quand tu parles à ton mari, c'est vrai, peut-être il a fauté, il a mal agi. Tu veux lui montrer que c'est de la pourriture. Seigneur, travaille nos cœurs en ces jours. Aide-moi à ne pas avoir une trop haute opinion de moi-même. Mais le deuxième appel, je le sens quand même vis-à-vis des jeunes gens qui sont dans les ministères. Je ne veux pas être spécifique, mais y a-t-il un jeune homme dans les ministères qui veut dire, Dieu m'a parlé. Seigneur, donne-nous des Jacques André Vernon par centaines, par milliers. Donne-nous les Haïdi Nabala par centaines et par milliers. Seigneur, je te supplie, éradique l'arrogance dans les ministères, dans les sacerdoces. Seigneur, je souffre et je pleure quand je vois cette nouvelle génération. Peut-être c'est notre faute. Nous ne leur avons pas inculqué les mêmes valeurs qui nous ont été communiquées. Peut-être c'est notre faute. Nous n'avons pas été suffisamment durs avec eux comme on l'a été avec nous. Combien de fois n'ai-je pas vu Jacques-André Vernon pleurant avant de monter sur la chaise? Et j'étais chaque fois frappé de voir les contrastes entre les tremblements dans le petit bureau et l'assurance au moment de la prédication. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne dans l'église. Que ta gloire revienne. Qu'elle revienne. Que ta gloire. Dans l'église. Chantons-les comme une prière. Que ta gloire revienne. Qu'elle revienne sous forme d'humilité. Y a-t-il des jeunes gens, fils et garçons dans le ministère qui veulent dire Dieu m'a parlé, viens te mettre à genoux avant que l'homme de Dieu ne prie. Que ta gloire revienne. Qu'il y ait un réveil de l'humilité. Qu'il y ait un réveil de l'humilité. Encore une fois, que ta gloire revienne. Seigneur, nettoie ton église. Seigneur, nettoie ton église. Commence de la chair. Commence de la chair jusqu'au bas. Que ta gloire revienne. Qu'elle revienne. Qu'elle revienne. Qu'elle revienne. Dans l'église. Est-ce qu'on peut le chanter en lingala? Nkembona yo zonga. Kembona. Yezonga Kembo. Kembo na Yezonga. ngombana yo na lingomba. Chante une dernière fois ngombana yo, ngombana yo. Ezonga ngombana yo, zonga papa ngombana yo. Nous tenons la main dans la main, nous élevons nos voix et nous prions par rapport à ce message, par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'Église.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.